Si vous avez envie de nous écouter sur les ondes, c'est encore possible sur Radio Fil de l'eau, qu'on salue d'ailleurs nos amis gersois de Radio Fil de l'eau, qui diffuse sur le 106.6 MHz ou le 100.9. Donc 106.6 ou 100.9, si vous avez envie d'être des puristes et de nous écouter sur de la radio, n'hésitez pas. Radio Fil de l'eau, on les remercie, on les salue puisqu'ils ont pris le direct en cours. Et toujours sur FMR Radio Campus, l'onde miroir bien sûr. Maintenant, on va donner une carte blanche aux élèves du conservatoire et de l'IFMI, si je ne me trompe pas. Ils vont nous proposer un florilège de textes. Alors, amis auditeurs, amis auditrices, vous reconnaîtrez peut-être certains d'entre eux qui ont déjà été dits. Peut-être des textes de Sarah Kane ou des textes de Jean Genet. Vous verrez, vous entendrez d'autres façons de les dire, d'autres façons de parler de ses amours.
Sur mon cou, sans armure et sans haine. Mon cou que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col. Sans que ton cœur s'émeuve, laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne, arrive dans mes yeux qui seront morts demain, arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main, mène-moi loin d'ici battre notre campagne. Viens mon ciel de rose, ô ma corbeille blonde, visite dans sa nuit ton condamné à mort, arrache-toi la chair, tue, escalade, mort, mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini, nous n'avions pas fini de nous parler d'amour, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Avant ma mort. C'était un texte, oui, de Jean Genet, le condamné à mort. Cher ami, je suis tout émue de vous dire que j'ai bien compris l'autre jour que vous aviez toujours une envie folle.
Je suis tout émue de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser.
Et je voudrais bien que ce soit une preuve que je puisse être aimée par vous. Je suis prête à montrer mon affection toute désintéressée et sans calcul. Et si vous voulez me voir ainsi, vous dévoiler sans artifice mon âme toute nue.
Daignez me faire visite.
Nous causerons, et en ami, franchement, je vous prouverai que je suis la femme sincère, capable de vous offrir l'affection la plus profonde, comme la plus étroite
dont vous puissiez rêver.
En un mot, la meilleure épouse dont vous puissiez rêver. Puisque votre âme est libre, pensez que l'abandon où je vis est bien long.
Puisque votre vie bien est bien longue
et souvent bien, bien insupportable. Mon chagrin est trop gros. Accourez bien vite et venez me le faire oublier. À vous, je veux me soumettre entièrement.
Votre poupée.
C'était un texte, une correspondance entre Georges Sand et Alfred de Musset.
Et oui, il fallait lire le dernier mot de chaque ligne pour comprendre le message. Une ligne sur deux de Georges Sand.
La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue. La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair. La nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. C'était le poème « À une passante » de Baudelaire sur l'Adagio en Allegro de Robert Schumann.
Et je veux jouer à cache-cache. Et te donner mes vêtements. Et te dire que j'aime bien tes chaussures. Et m'asseoir sur les marches pendant que tu prends ton bain. Et te masser le cou. Et t'embrasser les pieds. Et te tenir la main. Et sortir dîner sans m'énerver quand tu manges dans mon assiette. Et te retrouver au Rudy's. Et te parler de la journée. Et taper ton courrier. Et te porter tes affaires. Et rire de ta paranoïa. Et te donner des cassettes que tu n'écoutes pas. Et regarder des films géniaux. Et regarder des films nuls. Et me plaindre de la radio. Et prendre des photos de toi quand tu dors. Et me lever pour aller te chercher du café et des bagels et des feuilletés. Et aller au Florent boire un café à minuit. Et te laisser me voler mes cigarettes sans jamais être fichu de trouver une allumette. Et te parler du programme que j'ai vu la veille à la télé. Et t'emmener à la clinique des yeux. Et ne pas rire à tes blagues. Et avoir envie de toi le matin, mais te laisser dormir. Et t'embrasser le dos, et te caresser la peau. Et te dire comme j'aime tes cheveux, tes yeux, tes lèvres, ton cou, tes seins, ton cul, ton...
Toujours, je te le dis. Je te le dis toujours, mais t'écoutes jamais rien. Je te dis toujours la même chose, mais t'écoutes jamais. T'entends ? T'entends ce que je te dis ? Je te dis rien. Je te dis trop rien. Je te dis plus trop rien, hein ? C'est ça ? Tu veux que je te dise, on fait comme ça ? Tu veux ? Tu veux que je te dise quelque chose ? Rien. Tu veux vraiment que je te dise quelque chose ? Rien. C'est toujours la même chose, qu'est-ce que tu veux ? À chaque fois, il y a toujours que moi qui m'écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est exactement comme si je te disais... rien. Comme si je te disais jamais rien. Si je t'avais rien dit, je te l'avais dit. Rien.
Et fumer assis sur les marches jusqu'à ce que ton voisin rentre. Et fumer assis sur les marches jusqu'à ce que tu rentres. Et m'inquiéter quand tu es en retard. Et m'émerveiller quand tu es en avance. Et te donner des tournesols. Et aller à ta fête. Et y danser à en devenir bleu. Et me trouver désolé quand je suis dans mon tort, et heureux quand tu me pardonnes. Et regarder tes photos, et désirer t'avoir toujours connu.
Toi, il faut toujours tout te dire. Avec toi, il faut toujours tout te dire. Tu vois rien. Tu dis jamais rien. Avec toi, il faudrait toujours mettre tous les points sur les i. Tu te souviens hier ?
Et entendre ta voix dans mon oreille. Et sentir ta peau contre ma peau. Et avoir peur de tes colères quand tu te retrouves avec un œil tout rouge et l'autre bien bleu. Les cheveux du côté gauche et ton visage qui prend un air oriental. Et te dire que tu es splendide.
Oui, mais non.
Et te serrer contre moi quand tu es anxieuse.
Toi, on tout le temps toujours la même chose.
Et t'étreindre quand tu as mal.
Toi, on toujours tout le temps la même chose.
Et te vouloir rien qu'à sentir ton odeur.
Toujours les mêmes points sur le même i.
Et te blesser quand je te touche.
Écoute.
Et gémir quand je suis à tes côtés.
C'est clair que toujours la même chose parce que tu réponds jamais.
Et gémir quand je ne le suis pas.
Mais...
et bavoter sur tes seins.
C'est clair, t'es un cas.
Et te recouvrir dans la nuit.
Incapable de donner une réponse.
Et avoir froid quand tu tires la couverture et chaud quand tu ne le fais pas.
T'es incapable de donner.
Et m'attendrir quand tu ne le fais pas.
T'es incapable de donner une réponse claire.
Et m'attendrir quand tu souris.
T'es incapable.
Et fondre quand tu ris. Et ne pas comprendre pourquoi tu penses que je te rejette quand je ne te rejette pas. Et me demander comment tu pourrais bien penser que ça pourrait un jour arriver. Et me demander qui tu es. Mais t'accepter de toute façon. Et te parler du garçon arbre et ange à la...
à la voix de la forêt enchantée, qui a traversé l'océan parce qu'il t'aimait, et t'écrire des poèmes, et me demander pourquoi tu ne me crois pas, et éprouver un sentiment si profond que je ne trouve pas les mots pour l'exprimer.
Tant que c'est moi qui parle, on comprend tout ce qu'on dit. Mais dès que c'est toi, on comprend rien. C'est toi. Il n'y a plus personne. T'entends ? Il n'y a plus personne.
Avoir l'idée de t'acheter un chaton, et j'en serais jaloux parce que tu t'occuperais plus de lui que de moi, et te garder au lit quand tu dois t'en aller, et pleurer comme un bébé quand tu finis par le faire.
Avec toi, on n'obtient rien de toute façon, tu réponds jamais à rien, qu'est-ce que tu veux ? Et toi, qu'est-ce que tu veux de moi ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Ah, ça va, hein. C'est moi qui viens de te poser une question, tu vas pas répondre par une autre question. Rien ne t'atteint, toi. Vraiment, rien ne t'atteint. Rien ne t'atteint vraiment.
Et me débarrasser des cafards ? Et t'acheter des cadeaux dont tu ne veux pas et que je remballe comme d'habitude ? Et te demander en mariage pour que tu me dises non, comme d'habitude ? Et que je recommence, malgré tout ? Parce que même si tu penses que je ne le souhaite pas pour de bon, c'est exactement ce que je veux depuis ma toute première demande. Et errer dans la ville en trouvant que sans toi, elle est vide.
Maintenant, pousse-toi ou je me tire.
Et vouloir ce que tu veux.
T'entends ?
Et me dire que je me perds.
Tu te pousses et je me tire, moi.
Mais tout en sachant qu'avec toi, je suis en sûreté.
Moi, je te fais la même réponse que tu m'as déjà faite, toi, et je me tire.
Et te raconter ce que j'ai de pire.
C'est toi qui choisis.
Et te donner ce que j'ai de mieux.
Mais qu'est-ce que je t'ai fait, au juste ?
Parce que tu ne mérites pas moins.
Qu'est-ce que j'ai fait ?
Et répondre à tes questions.
Au ciel.
Quand j'aimerais autant pas.
Justement rien.
Et te dire la vérité quand je n'y tiens vraiment pas.
Juste ciel.
Et chercher à être honnête parce que je sais que tu préfères.
T'as rien fait.
Et me dire tout est fini. Mais tenir encore 10 petites minutes avant que tu ne me sortes de ta vie.
C'est ça.
Et oublier qui je suis.
C'est juste ça.
Et chercher à me rapprocher de toi parce que c'est beau d'apprendre à te connaître.
C'est justement ça.
Et ça mérite bien un effort.
Tu n'as rien fait.
Et m'adresser à toi dans un mauvais allemand.
Tu ne m'as rien fait de ce que tu voulais que je voulais que tu me fasses. C'est-à-dire tout. Tout.
Et en hébreu, c'est encore pire.
Oui, bon alors ça, c'est un argument que je retiens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Et faire l'amour avec toi à 3h du matin ?
Va !
Et peu importe.
Allez.
Peu importe.
Allez.
Peu importe comment, mais communiquer un peu de...
Allons, allons, que me chantez-vous là ?
L'irrésistible, immortel, invincible, inconditionnel, intégralement réel, pluri-émotionnel, multispirituel, tout fidèle, éternel, amour que j'ai pour toi !
Et maintenant, je ressens une douleur. Une grande douleur, là, une douleur très aiguë, c'est pas grave.
C'était Alice et Pierre-Yves à la musique. Alice Grouéron au piano et Pierre-Yves Meyer au violoncelle en improvisation, qui accompagnaient Mathilde Jarry et Maxime Baudin pour un montage à partir de Manque de Sarah Kane et un poème de Jacques Rebautier. On va enchaîner maintenant avec un autre duo. Cette fois, c'est Juliette Barthe au piano avec Eliezer Rangel à l'alto pour un extrait de la grande lettre de Sade avec Kenza Zourdani au micro et Margot Navio. Vous verrez encore des montages, des collages pour cette rencontre entre le conservatoire et l'IFMI.
24 heures de lettre d'amour.
Love me tender.
Je ne suis coupable que de simple et pur libertinage, et tel qu'il se pratique par tous les hommes, plus ou moins en raison de leur plus ou moins de tempérament, ou de penchant à cela qu'ils peuvent avoir reçu de la nature. Chacun a ses défauts, ne comparons rien, mais bourreaux ne gagneraient peut-être pas au parallèle. Oui, je suis libertin, je l'avoue. J'ai conçu tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là. Mais je n'ai sûrement pas fait tout ce que j'ai conçu et ne le ferai sûrement jamais. Je suis un libertin, mais je ne suis pas un criminel ni un meurtrier. Et puisqu'on me force
je recherche de belles histoires avec des femmes plus jeunes que moi. Seulement si vous êtes marié ou en relation, je suis discret. Envie de croquer la vie.
Je suis un libertin, mais je n'ai jamais compromis la santé de ma femme.
Pour garder votre compagnon,
je n'ai point eu
parfois
toutes les autres branches du libertinage, souvent si fatal à la
de jugement
des enfants.
Et respect sont de rigueur.
Les ai-je ruinés par le jeu ou par d'autres dépenses?
Une épaule, de la tendresse, des câlins, à vous de choisir.
N'ai-je pas toujours aimé
pour
tout
l'amour,
ce que je
j'ai un peu perdu la foi,
et mais tout ce qui devait m'être cher. Me suis-je mal conduit avec ma mère? Et n'est-ce pas lorsque je venais recueillir ses derniers soupirs et lui donner la dernière marque de mon attachement que la vôtre m'a fait traîner dans cette horrible prison où elle me laisse languir depuis 4 ans? En un mot, qu'on m'examine depuis ma plus tendre enfance, qu'on aille jusqu'à l'âge où je me suis mariée et qu'on voit, qu'on consulte, qu'on s'informe si j'ai jamais donné des preuves de la férocité qu'on me suppose et si quelques mauvaises actions ont servi d'annonce au crime que l'on me prête. Cela doit être, vous le savez, le crime à ses degrés. Comment donc supposer que d'une enfance et d'une jeunesse aussi innocente, je suis tout d'un coup parvenue au
jeune femme, 34 ans, jolie et agréable, recherche homme mûr pour relations partielles et ponctuelles.
Non, vous ne le croyez pas. Et vous qui me tyrannisez si cruellement aujourd'hui, vous ne le croyez pas non plus.
Je suis originale et inventive et saurai vous faire rêver dans tous les instants d'une vie d'intermittence.
Mais votre cœur connaît le mien. Il le juge mieux et il sait bien qu'il est innocent.
Si tu te reconnais dans cette annonce, contacte-moi par mail ou téléphone pour faire plus ample connaissance ou plus si affinité.
J'aurai le charme de vous en voir convenir un jour. Mais l'aveu ne rachètera pas mes tourments.
Relations sérieuses et hommes de plus de 50 ans s'abstenir.
Et je n'en aurai pas moins souffert.
Como si fuera esta noche.
un dernier passage proposé par le Conservatoire Elifmi. Cette fois, ce sera autour de Flaubert avec Madame Bovary. Un duo avec Gaëtan Barato au piano et Guillaume Douaro à la lecture. Madame Bovary.
Lettre de rupture de Rodolphe à Emma Bovary. Allons, se dit-il, commençons. Du courage, Emma, du courage. Je ne veux pas faire le malheur de votre existence. Après tout, c'est vrai, pensa Rodolphe. J'agis dans son intérêt, je suis honnête. Avez-vous mûrement pesé votre détermination? Savez-vous l'abîme où je vous entraînais, pauvre ange? Non, n'est-ce pas? Vous alliez confiante et folle, croyant au bonheur, à l'avenir. Ah, malheureux que nous sommes, insensés. Rodolphe s'arrêta pour trouver ici quelques bonnes excuses. Si je lui disais que toute ma fortune est perdue. Ah non, et d'ailleurs cela n'empêcherait rien. Ce serait à recommencer plus tard. Est-ce qu'on peut faire entendre raison à des femmes pareilles? Il réfléchit puis ajouta. Je ne vous oublierai pas, croyez-le bien. Et j'aurai continuellement pour vous un dévouement profond. Mais un jour, tôt ou tard, cette ardeur, c'est là le sort des choses humaines, se fut diminuée sans doute. Il nous serait venu des lassitudes, et qui sait même si je n'aurais pas eu l'atroce douleur d'assister à vos remords et d'y participer moi-même, puisque je les aurais causés. L'idée seule des chagrins qui vous arrivent me torture, Emma. Oubliez-moi. Pourquoi faut-il que je vous ai connue? Pourquoi étiez-vous si belle? Est-ce ma faute, oh mon Dieu? Non, non, n'en accusez que la fatalité. Voilà un mot qui fait toujours de l'effet. Ah, si vous eussiez été une de ces femmes au cœur frivole comme on en voit. Certes, j'aurais pu, par égoïsme, tenter une expérience alors sans danger pour vous. Mais cette exaltation délicieuse, qui fait à la fois votre charme et votre tourment, vous a empêché de comprendre, adorable femme que vous êtes, la fausseté de notre position future. Elle va peut-être croire que c'est par avarice que j'y renonce. Ah, n'importe, tant pis, il faut en finir. Le monde est cruel, Emma. La calomnie. Le dédain, l'outrage à vous, oh! Il me semble que c'est tout. Ah, encore ceci, de peur qu'elle ne vienne à me relancer. Je serai loin quand vous lirez ces tristes lignes, car j'ai voulu m'enfuir au plus vite afin d'éviter la tentation de vous revoir. Pas de faiblesse, je reviendrai. Et peut-être que plus tard, nous causerons ensemble très froidement de nos anciennes amours. Adieu. Et il y avait un dernier adieu séparé en deux mots. Adieu. Ce qu'il jugeait d'un excellent goût. Comment vais-je signer maintenant ? Votre tout dévoué? Non. Votre ami? Oui, c'est cela. Votre ami. Il relut sa lettre. Elle lui parut bonne.
Février 2016.
L'amour.
L'amour, peut-être.
Tout le monde connaît le sentiment envers toi.
Oh, you. Moi aussi, je t'aime.
I love you, je t'aime. You love me,
tu m'aimes.
He loves me,
il m'aime.
She loves me,
elle m'aime.
They love me,
ils m'aiment.
I love them,
je les aime.
Well, you could say them.
Nous aimons, yes.
Love, tender.
We love you. I,
je,
you,
yes?
This is the way we'll end. We love.
Can I work? Oui.
Yes.
Love me tender.
Love Me Tender à la CAFPO, ça continue après le conservatoire et l'IFMI. On va maintenant aller vers les lointaines terres de l'Islande pour une lettre d'amour un peu particulière écrite par un auteur islandais qui s'appelle Bergsvein Birgisson. Ça s'appelle La lettre à Helga et c'est Jean-Jacques Matteux qui nous propose cette lettre.
À Kolk. Kustadir, le 29 août 1997. Cher Helga, certains meurent de causes extérieures. D'autres meurent parce que la mort, depuis longtemps soudée à leurs veines, travaille en eux de l'intérieur. Tous meurent, chacun à sa façon. Certains tombent par terre au milieu d'une phrase. D'autres s'en vont paisiblement dans un songe. Est-ce que le rêve s'éteint alors comme l'écran à la fin du film? Ou est-ce que le rêve change simplement d'aspect, acquérant une autre clarté et des couleurs nouvelles? Et celui qui rêve, s'en aperçoit-il tant soit peu? Ma chère Unur est morte. Elle est morte en rêvant. Une nuit où il n'y avait personne. Béni soit sa mémoire. Pour ma part, la carcasse tient encore le coup, à part la raideur des épaules et des genoux. La vieillesse fait son œuvre. C'est comme ça, ma belle. Je suis devenu un vieillard impossible qui prend plaisir à raviver de vieilles plaies. Bientôt, ma belle, j'embarquerai pour le long voyage qui nous attend tous. Et c'est bien connu que l'on essaie d'alléger son fardeau avant de se mettre en route pour une telle expédition. Assurément, j'arrive après la soupe, maintenant que nous sommes tous plus ou moins morts ou séniles. Si tu vois cela d'un mauvais œil, tu n'auras qu'à jeter ce gribouillis. Algrimur est mort à la fin de l'hiver. La dernière année, il ne pouvait plus avaler à cause du cancer. On n'arrivait pas à faire entrer quoi que ce soit dans ce grand corps qu'il avait. Il a dépéri entre leurs mains à l'hôpital. Quand je suis allé lui rendre visite en février, c'était triste à voir. Il n'avait plus que la peau sur les os, béni soit sa mémoire. Mon neveu Martijn est venu me chercher à la maison de retraite. Je vais passer le plus clair de l'été dans une chambre avec vue plongeante sur la ferme que vous habitiez jadis. Algrimur et toi. Je laisse mon esprit vagabonder alentour sur ces mêmes collines qui sentaient bon le soleil il y a si longtemps. C'est à peu près tout ce que je puis faire à l'heure qu'il est. L'agonie d'Unur a duré 5 ans, 4 et demi, avec la ferme volonté de mourir. Je sors de cette période mal en point à bien des égards. Qui comprendra jamais quelle mouche l'a piqué? C'était comme si tout ce qu'il y avait de bien dans sa manière d'être s'était peu à peu mué en récrimination à propos de choses insignifiantes. Si je renversais du jus de fruits ou heurtais un vase de fleurs en m'occupant d'elle dans sa chambre, voilà que j'avais toujours été un foutu empoté, incapable de faire la moindre corvée. Elle cessa de se lever et refusait de se nourrir. La vieille âme que je lui connaissais s'était détériorée, oui. Son âme la quitta. Elle devint revêche et blessante, quels que fussent les soins qu'on lui prodiguait. Elle devint tout simplement une grabataire, grièvement atteinte en plus. Elle paraissait fâchée d'avoir été lancée dans cette existence pour commencer et fâchée de la façon dont sa vie s'était écoulée. Tout ce que je récoltais pour ma peine, c'était d'être traité de vrai salaud pour l'avoir mené en bateau toute sa vie. Je ne l'avais jamais aimé, disait-elle, comme ça, froidement. Et elle détournait les yeux. Je lui ai pourtant témoigné toute la sollicitude dont j'étais capable. Je lui achetais des revues et des boîtes de chocolat. J'ai sorti des photos de nous faisant des foins à grondir. Des photos de la vieille ferme, des tréteaux de séchage fléchissant sous le poids des lumpes et du poisson suspendu, du ramassage du duvet d'éder et des petits macareux sur les îlots, moi en train de racler une peau de phoque ou de réparer la barque dans le hangar, une hure sur le tracteur avec le lait dans le compartiment à l'arrière, bref, de tout le soleil qu'il m'a été donné de photographier dans cette vie avec mon vieux Polaroid, on t'apercevait sur une photo. Et nous fauchions le pré de compagnie. Elle a pointé le doigt sur toi et a dit « C'est elle que tu aurais dû prendre, et pas une brebis stérile comme moi. C'est elle que tu as toujours voulu, pas moi. » Elle a repoussé l'album. Elle fixait le pied du lit de ses yeux vides. Cela m'a fait mal au cœur pour elle. J'ai senti que j'aimais cette pauvre moribonde, cette femme agonisante qui n'avait pour ainsi dire personne au monde. Il m'a paru que j'avais eu raison de croupir dans mon coin avec elle pendant toutes ces années. Sinon, qui se serait occupé d'elle? Des larmes ont roulé le long de ses joues comme de toutes petites vagues de chagrin. À l'extérieur de la maison de retraite, c'était le soir. La circulation avait presque cessé. La lueur d'un réverbère entrait dans la chambre et faisait luire ses joues mouillées de larmes. Et puis, elle est morte. Au milieu de la nuit, dans un rêve. Le vieux spectre que je croyais depuis longtemps exorcisé s'est réveillé en une heure. Cette chimère élaborée naguère par les gens de la commune par pure saloperie. Oui, voilà-t-il pas que surgit en elle le complexe de l'héroïne de saga, cette maudite tare islandaise qui consiste à ne jamais pouvoir se débarrasser du passé ni à pardonner quoi que ce soit. À la maison de retraite, j'étais maintenant devenu le maquereau, le faux jeton et l'infidélité en chair et en os. Et elle s'est mise à décrire pour moi dans les moindres détails la jouissance que j'étais censé avoir tirée de toi à chaque expédition de rassemblement des moutons. Ça m'a fichu un coup. Une chance qu'il n'ait pas été nombreux à l'entendre quand elle s'est mise à hurler que je t'avais prise par derrière, en pétrissant tes seins lourds avec concupiscence et forniquée avec de telles secousses que ça faisait claquer tes fesses. C'était ses mots. Ses crises s'achevaient par des pleurs où elle s'accusait d'être une brebis stérile bonne à mettre au rancard. Quel a été l'incident qui, sans avoir jamais eu lieu, a pu susciter la médisance et entraîner des conséquences aussi mauvaises? Non, bien pire que s'il s'était vraiment produit. Peut-on tracer la ligne entre ce qui s'est véritablement passé et ce qui se serait passé selon les colporteurs de ragots traînant dans les cuisines, mis en verve à grand renfort de café et d'insinuation? Qu'est-ce qui n'a nullement eu lieu en ce jour de la Saint-Lambert 1939, tout en se produisant malgré tout dans l'esprit des mauvaises langues? Était-ce après que les autres eurent dépassé le vallon de Horsgdalur pour disparaître derrière la colline de Frams que j'aurais descendu tout doucement la pente afin de te rejoindre dans le creux herbeux, et nous aurions marché ensemble et causé, évoquant la belle toison des moutons venus de la montagne cette année-là, la blancheur des agneaux, leur rondeur et leur belle petite tête? Ensuite, nous aurions échangé quelques mots sur Bassi, le bélier reproducteur qu'on nous avait prêté, commentant la largeur de son poitrail et la musculature de son échine. Après ces mots sur le bélier, le vertige glucosé du désir se serait propagé dans mes veines et j'aurais effleuré les mèches de tes cheveux en les comparant à la neige qui vole sur les pentes de la montagne. Et toi, dans un rire, tu aurais dit « Bjarni, arrête ». Ensuite, je t'aurais embrassé. Des attouchements hâtifs auraient eu lieu avant que je ne baisse mon froc tandis que tu relevais ton pull de grosse laine pour dénuder tes seins, et là, mes cuisses couleur d'aspirine se seraient mises à claquer contre toi, tandis que le courlis roucoulait dans l'air lourd du parfum de la bruyère. Et nous deux pauvres créatures, là, dans le creux, nous n'en aurions plus fait qu'une. l'espace d'un instant. Et les gens de Camp Canet, comme il se doit dans les cuisines, mais cela n'aurait eu aucune conséquence fâcheuse, car tout penaud, je me serais empressé de demander humblement à ma chère Unure de pardonner ce faux pas. J'aurais même prétendument essayé de faire amende honorable en témoignant plus de tendresse à mon épouse, en me rendant compte que cette vie terrestre ne pouvait se résumer à plaquer son ventre contre celui d'une autre, mais bien plutôt à témoigner de l'affection et de la sollicitude à ses proches. Toi et moi aurions prétendument donné libre cours à notre désir une fois pour toutes, et puis basta. La page une fois tournée, je me serais mis à penser, à aspirer à autre chose. La vérité est que rien de tout cela n'arriva. Nous ne nous sommes pas retrouvés au creux d'un vallon comme l'imaginèrent ceux qui en ont répondu le bruit. Comme tu sais, le hasard a voulu que nous soyons redescendus, bon dernier, de l'expédition de recherche des bêtes et que nous nous soyons rencontrés au col qui domine le parc de tri des moutons. C'est pour cela que nous avons dévalé la pente ensemble. Il n'en a pas fallu davantage pour que l'idée germe dans l'esprit des gens, avec tous les halètements et soupirs de jouissance qui s'en suivent. Comment mettre le holà à l'imagination de celui ou celle qui nourrit de pareilles représentations ? C'est ainsi que notre prétendu abandon à la passion torride se propagea comme une traînée de poudre jusqu'à ce que la rumeur atteigne ma propre maison. Je venais de rentrer, échappant au vent du nord glacial de ce printemps-là, et je me frottais les mains en pestant contre ce froid inhabituel au moment d'entrer dans la cuisine où Unure était penchée au-dessus de ses casseroles. Va donc coucher avec elle pour te réchauffer, elle t'attend sûrement en face, les jambes écartées. Je suis d'abord resté interdit en entendant cela, puis j'ai explosé. J'ai flanqué une gifle à Unure en lui disant de faire gaffe à ses paroles. Elle a rougi, puis elle s'est mise à pleurer. Un vrai déluge, en se traitant de pauvresse stérile. Elle a dit qu'elle ne comprenais pas pourquoi je la gardais, que je ferais mieux de la laisser partir, que c'était toi que j'aimais et pas elle. J'ai dit non. Elle a dit qu'il valait mieux que je divorce et que je la prenne pour femme à sa place, qu'elle avait bien vu comment je la regardais. Tandis qu'elle, je ne la regardais jamais comme ça, que j'avais envie de toi. Et puis, elle a couru s'enfermer dans le placard. J'ai dit non, non, jamais de la vie. J'en ai eu gros sur le cœur quand la médisance a fait son chemin dans la contrée. Ou plutôt, comment dire ? La médisance a gonflé sa grosse bulle autour de mon cœur. Je n'avais plus de goût aux travaux ni aux jours. J'étais devenu impatient et irritable, incapable de gérer ce qui remuait en moi. Il me semblait qu'on me regardait avec défiance. Salopard de coureur de jupons. Voilà ce que je lisais dans le regard en coulisses des gens du cru lorsque j'allais à la coopérative ou à l'église. Unure s'éloigna de moi. C'est vrai que ses pleurnicheries à la maison me rendaient arrogant et irascible. On eût dit qu'une bestiole s'agitait en moi, s'évertuant à imbiber de suc gastrique l'incident suave qui était sur toutes les lèvres et que je n'avais pas eu la chance de vivre, bien qu'il me fût imputé. Je me mis à avoir envie de toi, Helga. C'est que tu étais tellement bien faite aussi. Pas étonnant qu'on s'employât à propager de tels ragots. Les fauteurs de troubles dévoilaient là leurs propres fantasmes. Quand je repense à ce temps-là, je me remémore sans honte notre histoire qui a commencé à bourgeonner à la suite de ces ragots. Peut-être suis-je devenu complètement immoral, rien d'autre qu'un suborneur et honté, mais je me souviens que j'avais envie de laisser s'épanouir tout ce qui était emprisonné en moi et puis de le déverser sur toi. Je savais bien qu'il y avait une autre chose qui t'a rabusté Unure et expliqué son attitude distante. Attitude qui semblait ne vouloir dire qu'une chose, je suis coupable. Je la comprenais et partageais sa souffrance. Je savais que, depuis son opération, C'était comme si le travail devait être désormais la seule justification de son existence. Elle se punissait pour un autre problème dont il lui était impossible de parler ouvertement. Elle refoulait son mal au fond d'elle-même. Or, la peine dévore le cœur, comme il est dit dans les anciens poèmes. Elle refusait de chercher du secours. Aucune adjuration ne parvenait à la toucher. Soit elle poussait des cris entremêlés de sanglots dans le placard, tandis que paralysée, je restais les yeux fixés sur les lattes du plancher. Soit elle disparaissait derrière la machine à filer dont elle actionnait les bobines avec acharnement. J'ai été pourtant un bon mari pour elle, ça tu peux me croire. Je n'arrêtais pas de lui demander si elle ne voulait pas se confier sur ce qui avait eu lieu, si on ne pouvait pas consulter des spécialistes là-bas, à Reykjavik. Et il n'y avait rien à faire. Unur a renoncé à moi sur le plan charnel. Toutes les caresses et attouchements devaient probablement lui rappeler son incapacité, et c'est pour cela qu'elle évitait d'attiser mon désir. La pudeur a eu raison d'elle en tant que personne. Elle me défendait de faire la moindre allusion à l'opération et d'évoquer la possibilité de retourner voir les docteurs pour tenter d'améliorer les choses. D'évidence, cette intervention chirurgicale avait été un fiasco, mais c'était comme si elle prenait la faute des médecins pour son propre destin, préétabli de manière irrévocable, comme si c'était tout ce qu'elle méritait. Unur réagissait toujours de manière identique chaque fois que je mentionnais l'affaire. Elle commençait par aller se fourrer dans la penderie pour pleurer et crier tout son soûl, puis devenue blême comme de l'herbe sèche, elle ne disait plus mot. Enfin, la couleur revenait à ses joues et elle mettait en marche la machine à filer, jusqu'à en faire fumer les bobines. Je finis par cesser de faire allusion à tout cela, par peur de ses réactions, mais j'avais vécu assez longtemps et j'en avais vu suffisamment pour savoir que les médecins aussi peuvent commettre des erreurs. Tous les hommes font des fautes, sinon ils ne seraient pas des hommes. Et puis vint ce jour de décembre où je t'ai aidé à amener les brebis au bélier. Je me suis présenté comme convenu avec le mâle reproducteur Kutur, joyau de la race de Jocul d'Allure. Je me souviens que c'était la Saint-Ambroise et que mon pantalon sentait l'antigel parce que j'avais dû réparer la veille le tracteur. Tu t'es mis aussitôt à dire du mâle de Algrimur, qui était à fond dans les pouliches à l'est du pays. Je compris qu'il y avait du tirage entre vous aussi. Algrimur laissait le poids de l'exploitation peser bien trop lourd sur tes épaules. Il ne valait pas grand-chose comme fermier, le Algrimur. Bien sûr que je t'ai aidé à mener les brebis au bélier par cette courte journée d'hiver au ciel rougeoyant. Je m'efforçais d'être toujours disponible pour toi, aussi bien à titre d'ami que de contrôleur des réserves de fourrage du canton de Horga. Le vent du nord soufflait. Dans le grésil et les nuages sombres pendouillaient comme des langues des lambeaux du soleil. Un temps pareil était censé favoriser la conception d'agneaux mâles. Selon une croyance qualifiée par toi de fumisterie, comme tu n'as pas manqué de me le rappeler lorsque les brebis ont mis bas et que les agnelles étaient en bien plus grand nombre. Quand Kutur a fini de saillir les femelles en chaleur, et s'est mis à lécher le sel dans la stalle de derrière. Je me souviens que tu es venu te pencher devant moi sur la balustrade, faisant ressortir tes blancs mamelons. Je palpais les brebis pour évaluer l'épaisseur de leur chair comme il incombe au contrôleur des provisions de fourrage. J'enfonçais les doigts dans la toison au long poil, tâtais le gras de la poitrine et sans trouver le moindre creux le long des côtes. Je m'attaquais ensuite au dos et palpais l'échine pour voir si les vertèbres faisaient saillie. Puis, suivant des doigts le cartilage costal, je remontais l'épine dorsale pour redescendre en frôlant les protubérances transverses. Sans me quitter des yeux, tu frottais le bout de tes seins contre la barre de la mangeoire. En poignant les cuisses fournies et musclées, je les palpais jusqu'aux jarrets afin de m'assurer que les bêtes étaient grasses et bien nourries, écartant ainsi le moindre doute qu'elles puissent passer l'hiver. À ce moment, penché en avant de telle sorte qu'on voyait juste un de tes seins, tu as dit tout tranquillement que j'étais un expert palpeur. Tu m'as demandé si je savais m'y prendre avec autant de douceur avec les femmes. Et avant même de m'en rendre compte, j'avais tendu la main pour rire vers ton sein. Mais alors que j'ébauchais le geste par simple jeu, tu l'as dénudé, ton sein lourd et gonflé, en m'enjoignant de vérifier comme si tu prenais la chose avec le plus grand sérieux. Je vis la rougeur envahir tes joues. Ce n'était pas la honte, mais le désir pur et simple. C'était la chaleur du désir. N'ai-je pas raison, ma belle, de voir cette partie nue de ton corps, je fus submergé par l'envie de toi. Le désir s'empara de moi avec une telle force qu'il me fallut sortir pour me rafraîchir au vent du nord et que j'errai dehors comme un vieux bélier arraché à sa brebis dans le feu de l'action. J'ai tenu bon, mais Dieu sait à quel point ce fut dur. Je compris que je ne réussirais jamais à me libérer de ton emprise. J'aurais soif de toi jusqu'à mon dernier souffle. Je me fiche pas mal d'écrire cela, Helga. Je suis plus qu'un vieillard qui n'a plus rien à perdre. Bientôt s'éteindra la dernière flamme et ma bouche béante se remplira de terre brune. Continuerai-je alors de te désirer ? Et puis, au début des beaux jours, la gale apparut chez vos moutons. Et tu m'appelas au secours pour leur donner un bain de waltz. Algrimur était parti dresser les chevaux dans le nord du pays et tes gosses étaient en pension. Tu étais seul à la ferme. J'avais reçu des instructions précises de l'Union agricole sur la façon de s'y prendre pour la gale des moutons. Qu'il s'agisse de la gale du Haut-Pou ou de celle du Haut-Tique. Le canton de Horga disposait d'une baignoire itinérante, acquise aux frais du département, facile à transporter, sur une structure en bois ad hoc. Le canton possédait un réservoir de 80 litres d'urine fermentée et une marmite géante en aluminium. J'amenais le tout chez toi sur ma charrette à foin. La neige fondait ce jour-là, les eaux ruisselaient en filets d'argent sur toutes les pentes. Je passais depuis toujours pour un original qui suivait sa propre voie en matière d'élevage. Je ne voulais pas que se perde l'ancien savoir-faire pour le développement de l'élevage des moutons. Les gens de la capitale donnaient des directives très claires quant à l'utilisation de l'urine étendue d'eau pour y baigner les bêtes. Mais la recette du préfet Magnus Kettilson pour la balnéation avait ma préférence. Je jetais dans l'urine pure des algues et de la cendre de bois, additionnée de bitume, de pisse humaine et de quelques feuilles de tabac. Ça fait toute la différence. Nous réchauffâmes le mélange sur les tisons dans l'ancien corps de logis et, après l'avoir versé dans la baignoire mobile placée au beau milieu de la bergerie, nous y plongeâmes les bêtes. Tu t'en souviens sûrement aussi bien que moi. La chemise aspergée de pisse, tu t'y vertuais à faire pénétrer le liquide dans la laine tandis que je maintenais les brebis en prenant garde à ce que leurs narines restent au-dessus de la surface. L'instant où je versais l'huile de requin sur l'échine du dernier agneau me reste toujours en mémoire. C'est alors que tu enlevas ta chemise et que la lumière de la lucarne où se nichaient les remèdes tomba sur tes seins nus, soulignant d'ombre le poids de leur courbe. Je vis aussi tes hanches qui s'évasaient à partir de la taille et je me raidis tout entier à ce spectacle. Jamais je ne vis chose plus belle sur la terre. Alors un barrage s'est rompu en moi et tout a débordé à l'intérieur comme sous le jet d'un compresseur. Je t'ai dit ce qui s'était passé avec Unur, qu'on l'avait envoyé se faire examiner à la suite de douleurs vaginales persistantes. Les médecins crurent déceler une tumeur et ne virent pas d'autre solution qu'une ablation. Bien que nous n'ayons pas encore eu d'enfant, ils tailladèrent là-dedans et arrachèrent tout à l'aide de pinces et de machins Ne lui avait-on pas demandé son avis ? Non. Toute seule là-bas, mourant de peur à l'hôpital, car je n'avais pu l'accompagner à cause des bêtes, elle n'avait pas eu voix au chapitre. Personne ne lui posa de questions sur rien. Quelques mois après l'opération, quand elle était censée être parfaitement rétablie et que je commençais à vouloir l'approcher, il apparut qu'elle avait été rapetassée de telle manière que rien ne pouvait la toucher par en bas sans lui faire très mal. C'est ainsi qu'ils s'étaient acquittés de leur tâche, ces maudits hommes en blanc. Ils l'avaient cousue, là, de l'intérieur, si serrée que rien ne pouvait passer. Encore heureux qu'ils n'aient pas tout fermé avec leur couture. Ça a été des jours pénibles. Elle, remplie d'une honte qui débordait en flots de larmes brûlantes. Une fois, elle est sortie en courant, en hurlant, dans le pré, en robe de chambre, en proie à une sorte de crise, et moi, à ses trousses, en caleçon long dans mes bottes. Que pouvais-je lui dire ? On aurait pu croire que je l'avais rouée de coups et qu'elle courait pour échapper au couteau que j'aurais brandi. La vérité était qu'une fois au lit, j'avais eu le malheur de mentionner l'opération. Encore une chance qu'il n'y eut personne aux fenêtres ce soir-là, ça, on peut le dire. J'avais suggéré qu'elle se fasse examiner par d'autres médecins pour voir s'il n'y avait pas moyen d'arranger ça, mais rien n'y faisait. Elle réagissait très mal, criant que je pouvais bien la faire égorger comme n'importe quelle brebis infertile. Elle s'enfermait dans la penderie de la chambre à coucher avec des crises de larmes à ébranler toute la maison. Et moi, ahuri, je regardais fixement les lattes du plancher. De ma vie, je n'avais jamais eu un tel comportement. Et c'est alors que tu m'as dit ça, quand je me suis mis à pleurer sur ton sein. Ce ne furent pas les mots en eux-mêmes qui m'embrasèrent, mais ta façon de les dire, dans l'odeur d'urine lourde et douce. Tu as pressé ma tête contre ta poitrine, contre tes mamelons sacrés. Puis, d'une voix basse et profonde, comme un souffle d'air qui s'engouffre dans une ravine, tu m'as dit « Aime-la à travers moi, l'aimer à travers toi. » Et tu as attiré ma tête dans tes seins lourds. Quel homme aurait pu résister à une telle façon de faire ? Tu trouves peut-être grossier de ma part d'évoquer cela et de te l'écrire, Helga. À réputation et respectabilité, je m'en contrefiche. Qu'est-ce qu'on peut t'en avoir à foutre quand tout est fini ? Tout bien considéré, il faut que j'avoue n'avoir jamais connu d'extase terrestre comparable à nos rapports, là, dans la grange, en ce jour de printemps, éternel dans mon souvenir. Lorsque je pus enfin pétrir tes formes généreuses et me noyer dans la plénitude de tes lèvres en cette brève et bienheureuse saison des amours de ma vie, ce qui devait arriver arriva, je me débarrassa de mon pantalon, tu fis voler tous tes vêtements, découvrant tes seins, ton pubis touffu. Tu courus dans la grange et moi derrière toi, excité et bandant comme je ne sais quoi. Sur le tas de foin, ton corps palpitait et tremblait sous le mien. C'était comme toucher du doigt la vie elle-même. Tu gémissais si fort qu'on pouvait craindre que cela s'entende jusqu'à la ferme. Mais je m'en foutais complètement. Ça m'était absolument égal que tous les habitants du canton de Horga viennent à la porte, salivant des babines, voir de leurs propres yeux comment on s'y prenait, là, dans le foin. Tes seins frémissaient comme si de blanches vagues déferlaient sous ta peau. Je n'avais rien vu de si beau. Et j'avais attendu si longtemps pour le voir. Je remontai mon pantalon sans un mot et détournai les yeux. Tu as dit que je n'avais pas à avoir honte. Tu souriais dans ta félicité comme si tu ignorais ce qu'était le péché. Accoudé sur un bras, de la paille dans les cheveux, tu as dit avec conviction que cela pouvait arriver à tout le monde et puis tu as souri, cherchant à rétablir le contact entre nous. Tu étais irréprochable, là dans le foin. J'ai vidé la baignoire et je l'ai portée tout seul jusqu'à la remorque. Ma cagoule de laine enfilée, j'ai mis le tracteur en route, cahotant sur le vieux chemin qui longe la mer, pour ne risquer aucune rencontre. Tout poisseux entre les cuisses, avec le bac à pisse à l'arrière et l'âme, comme un fantôme passé à l'essoreuse. Ça ne s'est jamais passé, ça n'a jamais eu lieu, c'est ainsi que mon âme a réagi aux sollicitations de la chair. Accord docile, âme impénitente. Personne ne devait savoir que la rumeur était fondée. J'eus le cœur serré cette nuit-là, je reconnaissais assurément avoir trompé ma chère Unur. Et c'était moche. Mon corps le savait. Mais j'avais pu glisser un œil par l'embrasure du paradis. Je trouve bon et juste de t'avoir écrit cette lettre, ma chère Helga. Bien que tu sois morte et ne puisses la lire, ça m'aura comme réconforté de griffonner ces lignes. Hier, j'ai pris ma canne et suis allé me promener sur mes vieilles jambes foutues. Je me suis couché dans l'herbe entre les mamelons d'Helga, comme je l'ai fait si souvent. Au sud, de gros nuages se déplaçaient vivement et de la lumière filtrait entre les cumulus. C'est alors qu'un merveilleux rayon de soleil a transpercé les nuages pour se planter sur moi et aux alentours, pour ne pas dire sur nous, puisque j'étais couché là, contre ta poitrine. C'est à ce moment qu'elle est arrivée, la petite bergeronnette. Elle s'est posée tout près sur une motte herbue. Je lui ai demandé, comme grand-mère Christine me l'avait appris, où je passerai l'année prochaine. La bergeronnette a hoché la queue, mais elle ne s'est pas envolée. Et j'ai compris que le poseur de questions n'en avait plus pour longtemps. Le rayon de soleil inondait la colline d'un tel flot de lumière que j'ai vu le signe d'un grand esprit de l'autre côté de la rive. Alors, je me suis mis à pleurer, vieillard sénile que je suis, échoué entre deux protubérances en terre d'Islande, les mamelons d'Helga. Et je compris que le mal dans cette vie, ce n'était pas les échardes acérées qui vous piquent et vous blessent, mais le doux appel de l'amour auquel on a fait la sourde oreille. La lettre sacrée à laquelle on répond trop tard. Car, je le vois bien à présent, dans la clarté du dénouement, que je t'aime, moi aussi.